Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
C'est quand même très difficile d'enchaîner chère Céline, après une blague.
Ne me mettez pas là-dedans, je n'ai rien à voir avec cette histoire.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et ça y est, la voilà, cette demi-finale tant attendue. Dans 8h maintenant, le coup d'envoi de ce France-Maroc. Deux équipes face à leur destin, les Bleus pour tenter de décrocher une deuxième étoile consécutive, les Marocains pour devenir la première nation africaine à disputer une finale de Coupe du Monde. Une certitude déjà, ce sera face à l'Argentine dimanche. Autre certitude, la ferveur qui est bien au rendez-vous dans les deux pays et dans un stade qui sera bouillon ce soir au Qatar. On va évidemment revenir tout au long de cette édition sur ce rendez-vous sportif et historique.
Et on sera notamment dans une dizaine de minutes avec une famille franco-marocaine à Marseille. Ce soir, ils seront tous derrière leur télévision, mais pas avec les mêmes maillots.
Ce match, c'est aussi l'objet de la question du jour sur notre site RTL.fr. La France va-t-elle se qualifier pour la finale? Si vous pensez comme Pascal Pro, allez vite cliquer. Dans cette édition également, l'affaire Jubilard. Quelle suite après la mise en situation de la nuit dernière qui n'a apparemment rien changé dans l'enquête? Un vaccin contre le cancer peut-être pour bientôt. Le laboratoire Moderna publie en tout cas des résultats d'essais encourageants. On y revient après le journal. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien et dans vos vacances de Noël aujourd'hui. Grève annoncée sur les rails, dans les airs, les mouvements sociaux vont-ils vous empêcher de circuler? On fera le point. Enfin, juste avant 13h, LVT midi. Là aussi, ça y est, il est en salle. On parlera évidemment longuement ce mercredi du nouvel Avatar.
Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole.
Avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Il a neigé ce matin, Peggy. Oui. Ça ne vous avait pas échappé. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Eh bien, il y aura une nouvelle salve de neige. Alors, la floconnade, hein, on n'est pas sur des grosses
quoi quantités.
Floconnade, ça
floconnade.
Va. Voilà, il y aura quelques flocons. On n'est pas sur des grosses quantités, mais il va encore neiger cet après-midi entre la Normandie, l'Île-de-France et le Nord-Est.
Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal. 33 départements restent en tout cas en vigilance neige verglas dans le pays. Des flocons, vous l'avez dit, qui seront peut-être peu nombreux ce soir. Il y en avait en tout cas ce matin moins que ce que l'on pouvait redouter, mais ils sont bien tombés en Île-de-France, notamment sur les hauteurs de Meudon dans les Hauts-de-Seine, où tout était blanc au réveil, Vincent Derosier.
Oui, la forêt, les toits, les pare-brises de voitures et les trottoirs. Et qui dit flocons en région parisienne dit panique pour tous ceux qui doivent aller bosser.
Bon, là, je suis venu à pied. Hein. Les dessins, ouais, ici, il n'y a pas de buisson.
Vous avez marché combien de temps?
Je sais que j'ai fait une heure au moins. Hein.
Pour descendre un pont de Sèvres, il n'y a pas de bus.
Vous avez pas glissé là en trottinette?
Si. J'ai glissé tout fort.
C'est vraiment compliqué. Là, je vais au travail, je suis en retard déjà.
Vous avez combien de temps de retard là?
J'ai presque une heure.
Une heure de marche dans le froid, une trottinette qui dérape ou une heure de retard parce qu'on a attendu un bus qui n'est jamais arrivé. Choisissez la meilleure option pour aller travailler. Et puis, qui dit neige, dit également émerveillement.
Moi, j'adore la neige à Noël, ouais. S'il pouvait neiger pour le réveillon, ce serait merveilleux.
En fait, je suis péruvienne, donc c'est la première fois pour moi.
Mais vous avez quel âge?
Ah, 23 ans.
Vous aviez jamais vu la neige?
Oui.
Et c'est donc sur RTL que vous avez entendu pour la première fois Angie, péruvienne de 23 ans qui vit à Lima et qui n'avait jamais vu la neige.
Merci beaucoup Vincent Derosier et Peggy qui était attentive m'a rappelé à l'ordre, ce ne sont pas 33 mais bien 25 départements qui sont toujours en vigilance orange, neige, verglas. Notez que la consommation d'électricité elle continue de baisser, moins 9,7% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes.
RTL Midi.
Cédric Jubilard est resté stoïque cette nuit lors de la mise en situation à son domicile, 2 ans après la disparition de son épouse Delphine.
Une mise en situation qui avait lieu pour tenter de percer le mystère de cette nuit du 15 au 16 décembre 2020, lorsque l'infirmière a disparu. Depuis, les recherches n'ont rien donné, pas de corps, pas de scène de crime, pas de preuves. Principal suspect, Cédric Jubilard, lui, n'a jamais varié dans ses déclarations. On a le sentiment que l'enquête piétine. Qu'est-ce qui va donc se passer maintenant, Thomas Proutot?
Eh bien, on attend les ultimes actes d'enquête, notamment notamment des détails sur les communications passées par le téléphone de Delphine Jubilard la nuit de sa disparition. Google doit encore communiquer de nouveaux éléments. Les deux juges en charge du dossier doivent aussi décider si elles ordonnent de nouvelles fouilles. Toutes celles qui ont été menées ont été évidemment infructueuses. Les dernières dans le cimetière de Cagnac-les-Mines où 9 tombes ont été ouvertes cet été. Il peut aussi y avoir des actes demandés par les parties, défense de Cédric Jubilard ou partie civile, famille et amis de Delphine. Après cela, les deux magistrates transmettront l'enquête au parquet qui devra analyser le faisceau d'indices sans preuve. Vous les connaissez, les cris dans la nuit, le téléphone de Delphine activé après sa disparition, la voiture retrouvée garée dans le mauvais sens au lendemain de sa disparition. Le parquet dira alors s'il requiert un procès aux assises pour Cédric Jubilard qui, on le souligne, on le rappelle, se dit innocent depuis le premier jour. Ce sont enfin les deux magistrates qui prendront la décision finale pour un éventuel procès.
Thomas Proto, chef du service police-justice pour RTL. Gérald Darmanin annonce avoir décidé de porter plainte en diffamation après les propos d'Adrien Quatennens, le député LFI, condamné hier à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur son épouse. Il accuse dans une interview à La Voix du Nord le ministre de l'Intérieur d'avoir orchestré un coup politique destiné à l'abattre. Et puis en Ukraine, les forces antiaériennes annoncent avoir abattu ce matin 13 drones lancés par la Russie contre Kiev. Les attaques aériennes qui se multiplient sur le territoire ukrainien, Moscou cherchant à anéantir systématiquement les infrastructures énergétiques du pays.
RTL, Coupe du Monde 2022.
C'est le grand jour pour les hommes de Didier Deschamps. Ils marchent désormais d'une deuxième finale de Coupe du Monde consécutive.
Pas de revanche contre la Croatie en perspective, mais une affiche de rêve face à l'Argentine de Léo Messi qui a décroché son billet hier soir. Victoire 3-0 face aux Croates. Mais pour pouvoir défier l'Albi Céleste dimanche, il va d'abord falloir battre les Marocains ce soir. La surprise de ce mondial et sa défense quasi infranchissable. Bonjour Nicolas Georgerot.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'RTL au Qatar. Vous nous ferez d'ailleurs vivre le match sur RTL. On rappelle, soirée spéciale dès 18h sur l'antenne. Les Bleus qui ont décortiqué ce matin encore le jeu des Marocains, Nicolas.
Oui, dans une séance vidéo juste avant le déjeuner, une quinzaine de minutes pour rappeler la vigilance à avoir sur certains aspects du jeu marocain. Ça s'ajoute aux multiples séquences décortiquées ces derniers jours. Les Bleus sont en train de déjeuner depuis une quarantaine de minutes. Ensuite, chacun ira dans sa chambre pour une légère sieste pour ceux qui trouveront un peu le sommeil. Le staff doit trancher quant à la titularisation d'Adrien Rabiot et d'Ayo Upamecano, le milieu et défenseur qui ont pris froid depuis 48 heures avec le changement de température. Ici avec la climatisation également. L'un a été ménagé 2 jours, l'autre 24 heures. Les deux joueurs ce matin se sentaient mieux et l'encadrement, plutôt que de trancher rapidement, adaptera ou pas le 11 de départ dans l'après-midi. Ce serait en tout cas le ou les premiers remplacements contraints pour Deschamps depuis la blessure de Lucas Hernandez face à l'Australie lors du premier match. Konaté et Fofana se tiennent prêts. Dernière causerie aux alentours de 17h et les Bleus arriveront dans ce stade au nord du Qatar Al Khor vers 18h15 après 35-40 minutes de trajet.
Merci Nicolas, on vous retrouve à 12h40 dans une demi-heure maintenant pour décortiquer avec votre acolyte Philippe Sanfourche les forces et faiblesses des deux équipes. Et puis vous nous parliez de Didier Deschamps, ne ratez pas le dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction avec cette question. Didier Deschamps est-il le meilleur sélectionneur du monde? C'est à retrouver sur RTL.fr et sur toutes les plateformes.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous, effectivement, chaque jour l'info plus près de vous.
Et aujourd'hui, direction Marseille, sur les rives de la Méditerranée. Bonjour Étienne Baudu.
Bonjour à tous les deux, bonjour à toutes et à tous.
Marseille, ou comme dans toute la France, on va évidemment suivre la demi-finale. Ce soir, vous êtes allé à la rencontre d'une famille franco-marocaine où on suit le mondial depuis le début et où on peut dire que les positions sont un peu crispées ces derniers jours.
Oui, c'est ça. Alors lui, il s'appelle Mounaïm, hein, mais tout le monde l'appelle Moun. Il est né à Taza, à une centaine de kilomètres de Fès, au Maroc. Donc, il est arrivé en France, il avait à peine 6 ans. Et aujourd'hui, pour ce passionné de foot, ce sont ses origines qui parlent. Hein. Et donc, Moun est devenu, au fil des matchs, eh bien, un inconditionnel des Lions de l'Atlas.
On n'y croyait pas trop au tout début, hein, dans les matchs de groupe. Mais plus l'équipe avançait lors du tournoi, plus on sentait une légère fierté. Ouais, j'étais content et ça égayait un peu nos journées. Quoi. C'est la première équipe africaine qui arrive en demi-finale. Ah oui, c'est mes origines aussi. Ça s'enlève pas. Mais c'est vrai qu'entre les deux, mon cœur balance énormément, mais ça balance un peu plus pour le Maroc.
Et puis au fil du tournoi, Étienne, c'est toute la famille en fait qui s'est prise au jeu. Ils se chambrent même un peu entre eux. Hein.
Et oui, entre Moon et son épouse Caroline, qui elle a des origines espagnoles, mais aussi avec leurs deux filles, Lina et Melissa, 14 et 13 ans. Et imaginez un peu l'ambiance familiale lors du match Maroc-Espagne en 8e de finale.
Oui, oui, alors surtout ma fille. Oui, bizarrement, ouais, oui, Lina, elle m'a fait de bisquer.
T'as fait bisquer ta mère alors ?
Bah, un peu parce que malgré tout, moi je supportais plus le Maroc que l'Espagne puisque c'est ma plus grande origine. Donc c'est vrai que maman, quand elle disait qu'elle était pour l'Espagne, moi j'étais là, ah, non, c'est le Maroc qui va gagner, ils vont passer. Et quand ils sont passés, bah, bien sûr, je les fais bisquer.
Bon, je n'en tiens pas rigueur.
Faire bisquer, c'est une expression qui est charmante d'ailleurs. Bon, maintenant les choses sérieuses arrivent, Étienne. Là encore, deux camps dans la famille.
Eh oui, d'un côté, Caroline et Mélissa, à fond pour la France.
Moi, je serai pour la France, hein, quoi qu'il arrive. Bah, après, c'est mon pays, quoi.
Eh oui, évidemment. Et de l'autre, Moon et Lina. Et même si ce soir, ils regarderont cette demi-finale chez des amis, m'ont-ils dit, qui eux aussi supporteront la France, eh bien, ils ne comptent pas se laisser faire. Et il paraît que Moon s'est donné de la voix.
Je confirme. Donc, c'est vrai qu'au niveau des cris,
papa, il remplace au moins 5 personnes en criant.
On est minoritaire, mais on s'est donné de la voix.
Voilà, et chacun y va de son pronostic, même si, par superstition, aucun ne veut donner un score avant le match.
Moi, je vois la France arriver en finale et je pense qu'ils sont même capables de remporter cette Coupe du Monde, alors je serai derrière eux.
Le Maroc, moi aussi, je le vois arriver en finale. Ben, ils ont déjà éliminé énormément d'équipes qui étaient soi-disant plus fortes qu'eux. Mais
pas peur.
Faut aller, faut aller au culot, comme on dit, et tenter le tout pour le tout. On n'a rien à perdre, le Maroc n'a rien à perdre. Il a déjà réussi sa Coupe du Monde. Donc, allez le Maroc, allez la France et que le meilleur gagne.
Moon qui ajoute en souriant, de toute façon, que ce soit la France ou le Maroc qui passe, ce soir, lui qui a la double nationalité sera gagnant dans les deux cas.
Merci beaucoup Étienne Baudieu à Marseille, donc pour RTL. La météo, on vous retrouve comme promis Peggy Broche. On le disait, il a neigé ce matin et ça pourrait bien revenir un petit peu cet après-midi.
Exactement, il y a un deuxième passage attendu, Céline, entre la Normandie et le Nord-Est. Alors, en milieu d'après-midi, normalement, ça devrait commencer à tomber sur la Normandie. Ça va arriver en fin d'après-midi sur l'Île-de-France. On dit plutôt le sud de l'Île-de-France, mais quoi qu'il en soit, soyez vigilants parce que ce sera au moment où vous allez rentrer certainement du travail. Progressivement, ça va se décaler vers la Lorraine et l'Alsace. Et puis, sur la zone juste en dessous, juste plus au sud, attention aux pluies verglaçantes entre Orléans par exemple et le nord-est. On a également cette perturbation qui concerne la Bretagne, le massif central et les Alpes avec des pluies tout au long de la journée, alors parfois localisées. Et puis attention au risque d'avalanche sur les Alpes du sud, qui est assez, les Alpes du nord, qui est assez fort avec de la neige encore à 1900 mètres. Tout ça sous des températures encore froides au nord, même si elles sont en hausse, et elles sont en hausse partout. On a cet après-midi de prévu 0 à Strasbourg, ça ne dégèle pas comme les jours précédents. 1 degré à Paris, 2 à Caen, 3 à Mulhouse, 4 à Brest, 7 à Grenoble, 10 à Lyon. Dans le sud, on a des températures bien douces pour la saison par endroit. 11 à Nîmes, 12 à Marseille, 14 à Agen, 15 à Toulouse, 16 à Bordeaux et ça ne s'arrête pas là. 17 à Ajaccio et j'ai même un 19 degrés cet après-midi à Biarritz.
Ah oui, quand
vous
même.
Imaginez.
Reparlons de la neige malgré les 19 degrés que vous annoncez, Peggy, parce que certains ont peut-être été déçus ce matin de voir que ce n'était pas aussi blanc qu'ils l'auraient espéré au réveil chez eux. Est-ce qu'on peut savoir précisément combien de centimètres vont tomber quand on parle de neige ou est-ce que c'est très compliqué
à annoncer ? C'est très compliqué à annoncer, tout comme on ne sait pas exact précisément où c'est quand on parle de neige. Par exemple, sur l'Île-de-France, on vous dit qu'il va neiger sur l'Île-de-France, on sait que ce sera plus dans le sud, plus dans le nord. Et c'est vrai que quand on parle de précipitations hivernales, ça peut être des pluies verglaçantes, ça peut être de la neige. Et en fonction de la température du sol, et ben forcément, ça tient ou ça ne tient pas. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas tous égaux. Mais globalement, on devrait avoir une pellicule de 1 à 2 cm sur l'Île-de-France, plutôt 2 cm sur la Normandie. Mais ce ne sera pas pareil pour tout le monde.
Merci beaucoup, Peggy. À tout à l'heure.
Y aura-t-il un vaccin contre le cancer ? On en parle dans une seconde avec Agathe Landais. Vous le savez, chaque jour, on aime s'interroger un peu plus longuement sur un des thèmes de l'actualité. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
On prend une biopsie de votre cancer. Elle est analysée génétiquement par le séquençage génétique pour lire toutes les lettres de votre ADN de votre cellule cancéreuse. C'est comparé à l'ADN d'une de vos cellules saines. Et par rapport à ça, on peut savoir où sont les mutations génétiques de votre cancer. Et avec ça, on fait en 3 à 5 semaines un vaccin qui permet d'éduquer votre système immunitaire à reconnaître votre tumeur.
Stéphane Bancel, le PDG de Moderna, qui était invité d'RTL le 15 janvier 2021. Et qui parlait donc de cet espoir de vaccin contre le cancer, espoir de plus en plus sérieux après l'annonce des laboratoires Moderna et Merck des résultats préliminaires positifs pour leur vaccin à ARN messager en cours de développement contre le cancer de la peau. Bonjour Agathe Landais.
Bonjour.
Vous êtes l'une de nos spécialistes santé ici à RTL. D'abord, on parle ici d'un vaccin à ARN messager. On a beaucoup entendu ce terme au début du Covid. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste exactement ?
Alors, pour bien comprendre, il faut comparer la technologie ARN messager aux autres types de vaccins plus traditionnels. Dans ces vaccins classiques, comme celui par exemple contre la grippe, on injecte dans l'organisme un petit fragment de virus inactivé. C'est ça qui permet ensuite à notre corps de fabriquer des anticorps. Les vaccins ARN messager, eux, ne contiennent pas du tout de virus, mais une molécule qui ressemble au virus. C'est un peu comme si on injectait dans nos corps une photo de la toxine à combattre. Les vaccins trompe l'organisme qui croit être infecté et donc se met à produire des anticorps.
Et si j'ai bien compris, M. Mansell, c'est une sorte de vaccin sur mesure. Chacun aurait son vaccin. Mmh. Ce vaccin, il permet quoi ?
Alors, le vaccin sur lequel travaillent les laboratoires Moderna et Merck concerne là les cancers de la peau. C'est un vaccin thérapeutique et pas préventif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est destiné à des patients à qui on a déjà diagnostiqué un cancer à un stade avancé. Ça ne permet pas d'éviter d'attraper le cancer, donc, mais ça permet d'éviter la récidive. Ce serait un énorme progrès médical, hein, parce qu'aujourd'hui, après un mélanome de stade 4, le taux de survie à 4 ans n'est que de 16%.
On parle d'essai, là, Agathe, mais on en est où dans le développement de ce vaccin ? Il sera sur le marché bientôt ?
Alors, les essais cliniques, pour l'instant, sont très encourageants. Ils ont démontré que ce vaccin permet de diviser quasiment par deux le taux de récidive et la mortalité après avoir eu donc un cancer de la peau. Mais pour l'instant, on n'est vraiment qu'aux prémices du traitement. Il n'est qu'en phase 2. Il n'a été testé que sur 150 patients, c'est très peu. La phase 3 n'a pas encore commencé. Elle devrait commencer en milieu d'année 2023, durer 3 ans. Donc vous voyez, ça va prendre encore un peu de temps. Et cette phase 3, elle va consister à vraiment tester ce vaccin sur un très grand nombre de malades pour être sûr de sa tolérance et de son efficacité. Merck et Moderna, on le rappelle aussi, ne sont pas les seuls laboratoires à travailler sur ce type de vaccin cancer de la peau. L'entreprise BioNTech a aussi un sérum en phase 2 et elle promet, elle, un vaccin contre les mélanomes d'ici 2030. Donc c'est pas tout de suite.
Et que je comprenne bien, ce vaccin n'est pas pour le cancer en cours, d'une certaine manière, mais c'est pour un cancer guéri, pour empêcher la récidive.
Pour empêcher la récidive, ça, après une opération chirurgicale.
Nous sommes d'accord. Alors là, on parlait des mélanomes. On pourrait avoir la même chose pour d'autres cancers ?
Oui, car l'ARN messager se développe depuis les années 90. De nombreux laboratoires rêvent de mettre au point des vaccins contre le cancer. Merck et Moderna sont par exemple aussi en train de travailler sur un vaccin pour éviter les récidives du cancer des poumons. Par ailleurs, la Ligue contre le cancer finance aujourd'hui 6 autres projets contre les cancers colorectaux, de la prostate, les cancers ORL ou contre la leucémie. Ce qui est sûr, c'est que le Covid a vraiment donné un élan colossal à toute la recherche sur la technologie ARN messager et que les milliards de doses anti-Covid qui ont été injectées partout dans le monde ont confirmé à grande échelle la fiabilité de cette technologie.
Merci beaucoup Agathe Landais pour toutes ces explications.
Et merci pour cette clarté. Dans un instant, Noël. Noël, c'est cadeau. Noël, c'est chocolat. Et Noël, c'est grève, bien sûr, à la SNCF, Air France. Pourrez-vous partir en vacances pour les fêtes ? On en parle tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi, votre vie.
Et votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait bien sûr votre quotidien aujourd'hui.
Mesdames, messieurs, aujourd'hui, un arrêt de travail d'une partie du personnel de la SNCF perturbe la circulation des trains. Merci de votre compréhension.
Nous avons décidé de plomber le déjeuner de ceux qui nous écoutent, Céline.
Pas tout à fait, Pascal. On a décidé de les informer parce que c'est notre...
De rester chez vous, de ne pas voir vos familles, de ne pas prendre le train. C'est ça le message que vous donnez à la France aujourd'hui qui prépare son match de ce soir.
Je les informe pour qu'ils gardent une petite note d'espoir et parce que c'est ma mission chevillée au corps, toujours les informer chaque jour avec vous, Pascal. L'heure du départ approche, vous le savez, pour ceux qui espèrent encore.
Mais le départ, non, c'est bien le problème, il y a que l'heure qui approche.
Mais vous êtes vraiment un oiseau de mauvaise augure. Arnaud Touche est là. On va voir s'il décide de vous
imiter. Il est arrivé en disant je vais vous donner 3 minutes de mauvaises nouvelles. Il est entré dans ce studio en nous disant cela.
Mais il en reste plus que 3, que 2 maintenant.
Bon, il en reste maintenant plus que 2,30. Moi, j'attends la fin avec impatience.
Oui. Vous allez voir. On a beaucoup parlé la semaine dernière, Arnaud Touche, vous qui êtes notre spécialiste transport ici à RTL. La semaine dernière, déjà, donc un mouvement social à la SNCF avec une première grève et la menace d'autres grèves sur les vacances de Noël. Vacances qui commencent, on le rappelle, pour les scolaires vendredi soir, oui, hein, dans 2 jours. Donc, alors où on en est ? D'abord les trains, il y en aura ou pas ?
Alors j'aimerais tellement vous dire oui, mais là, à cet instant, en tout cas à midi 24, je ne peux pas, car on le saura en fait à 17h demain. Il y aura les prévisions effectivement pour ce week-end-là.
Parce qu'il y a des grèves de prévues ce week-end ?
Eh bien oui, il y a un préavis de grève déposé par Sudrail du côté des Aiguillères cette fois-ci. Ne rigolez pas, Peggy, sinon ça ne va pas être simple. Ouais. Il démarre effectivement demain soir à 20h et durera jusqu'à lundi matin. Ça c'est pour les Aiguillères, et les discussions sont toujours en cours avec la direction de la SNCF. Mais il y a un autre préavis intersyndical, cette fois-ci pas uniquement Sudrail, mais je parle de la CGT, l'UNSA Sud et la CFDT, sur l'axe Atlantique uniquement. C'est quand même 40% du trafic TGV, je le rappelle, ça va de Saint-Malo à Toulouse en passant par Bordeaux. Mmh. Et là aussi, les discussions sont en cours, on en saura plus mais demain à 17h.
Discussion pourquoi ? Pour revalorisation du salaire, pour retraite
Notamment, alors là, clairement, là c'est les aiguilleurs, donc là c'est effectivement des revendications à chaque fois qui sont catégorielles, et sur l'autre, c'est sur l'axe Atlantique, où là, très clairement aussi, c'est uniquement sur ceux qui travaillent sur l'axe Atlantique, pour le coup.
Bon, qui ont des revendications particulières pour l'axe Atlantique.
Notamment, oui,
que n'ont pas l'axe Nord-Sud.
Absolument, et c'est pas du tout la même chose non plus pour les négociations au niveau du groupe.
Oui. J'imagine bien. Il y a un préavis de grève pour Noël ?
Oui, et nouvel an, de la part de Sudrail et de la CFDT, du côté des contrôleurs. Alors, c'est du 23 au 26...
Ça, c'est les contrôleurs, cette fois-ci.
Ça, c'est les contrôleurs, cette fois-ci, effectivement, du 23 au 26 décembre.
Ils se mettent d'accord entre eux pour prendre une semaine sur deux. Les aiguilleurs, c'est début des vacances. Les contrôleurs, c'est Noël.
Ce sont des revendications catégorielles, en tout cas. Et il y en a une autre pour Nouvel An, du 30 décembre au 2 janvier. Alors là, c'est pareil. Une décision, en revanche, pour Noël sera prise demain soir par ces syndicats-là. Ils diront si oui ou non, effectivement. Eh bien, ils feront réellement grève pour Noël ou pas.
Et ça penche de quel côté ? Vous avez des infos ?
C'est encore en discussion actuellement. Il est possible qu'il n'y ait pas de grève pour Noël. Il est possible, mais tout est sur la table encore. Non, on n'en sait rien, mais on le saura effectivement demain soir, ça c'est une certitude.
Il vaut mieux prendre ses billets entre le 19 et le 22 et entre Noël et le 1er de l'an, si on comprend bien.
Exactement.
Ça c'est pour le train. On a aussi parlé de préavis de grève dans le secteur de l'aviation, Arnaud.
Oui, effectivement, il y a une grève qui menace là chez Air France, cette fois-ci du 22 décembre au 2 janvier, donc là c'est carrément toute la période. Alors là, c'est les deux syndicats majoritaires, des stewards et des hôtesses de la compagnie tricolore qui veulent se mobiliser pour obtenir un accord sur leurs conditions de travail. Les discussions, elles s'enlisent depuis plusieurs jours. Et en cas de grève, alors ce serait majoritairement les vols courts et moyens courriers, vous le savez, qui sont souvent touchés en premier parce que les longs courriers, évidemment, ça va plus loin et il y a moins de vols dans la journée, effectivement. Mais il n'y a pas que Air France, il y a aussi la compagnie Corsair où là il y a un préavis de grève aussi, mais il y a une bonne nouvelle en revanche, c'est chez EasyJet. Il n'y avait pas de préavis de grève, mais ça tendait vers ça, et puis finalement c'est le conflit est en passe d'être résolu. Voilà, c'est une bonne nouvelle ça.
On n'oublie pas que beaucoup de Français prendront leur voiture pour les fêtes. Là, il n'y a pas de préavis de grève, ni sur les péages, ni du côté des routiers.
J'ai jamais vu des péages en grève, ça ne m'est jamais arrivé.
Non, mais des routiers en grève, oui, ça peut arriver. Mais c'est pas au programme pendant ces vacances.
Vous êtes bien aimable.
C'est fort gentil.
Un petit conseil quand même pour les automobilistes, Arnaud.
Oui, faire le plein avant le 31 décembre à minuit, parce que je vous le rappelle, la réduction de 10 centimes disparaîtra définitivement à 23h59 le 31 décembre.
Bon, bah écoutez, on va attendre.
Demain
c'est
soir.
C'est pas si catastrophique que ça.
Non.
Nous ne sommes pas en grève en tout cas. Nous serons là à Noël.
Vous n'êtes pas au courant de mon préavis ? vous fait suivre ça.
La semaine prochaine, vous n'êtes pas là, c'est
non.
Vrai ? Mais c'est pas en grève, c'est parce que vous prenez quelques jours de vacances.
C'est ça.
Bien évidemment. RTL Midi va revenir dans une seconde. L'info revient à 12h30. On parle football, bien sûr. Et je vous rappelle notre question avec Jean-Michel Rascol. Est-ce qu'on ne joue pas à se faire peur ? Parce que l'équipe de France, a priori, est largement favorite. Et les cotes, par exemple. La cote de la France ce soir est d'1,50. La cote du Maroc est de 7-1. C'est significatif quand même. A tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h31.
RTL Midi.
Le 12-30.
Céline Landreau et Pascal Pro.
12h31, c'est votre grande édition, Céline, nous sommes en retard.
Effectivement, alors je me dépêche. Grande édition avec cette question aujourd'hui. Qui va rejoindre l'Argentine en finale du Mondial dimanche? La réponse ce soir avec cette rencontre si attendue des deux côtés de la Méditerranée entre la France et le Maroc. L'expérience des champions du monde en quête d'une nouvelle étoile face à la surprise marocaine et à sa muraille défensive. La ferveur est palpable, vous l'entendrez, la crainte de débordement aussi, notamment à Paris. 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce soir sur tout le territoire. Dans cette édition aussi, trois gardes à vue après le lynchage et la mort d'un homme soupçonné de cambriolage à l'Escarène près de Nice. Deux mois après les faits, il s'agit des premières interpellations dans l'enquête. L'affaire Quatennens, elle est politique, celle-ci qui divise toujours la NUP, l'épidémie de grippe qui progresse dans le pays et à l'hôpital. Et puis votre rendez-vous culture LVT midi juste avant 13h. Aujourd'hui, on parlera cinéma avec la sortie d'Avatar 2 de James Cameron.
13h, les auditeurs ont la parole. 32-10 pour dialoguer. France-Maroc sur le terrain, en dehors du terrain.
Et votre réponse à la question du jour sur notre site rtl.fr, à votre avis, la France va-t-elle se qualifier pour la finale? La météo, on vous retrouve Peggy Broche. Il fait froid, il fait neige.
C'est pas mal, oui, il fait neige. Oui, on a encore un deuxième passage neigeux qui arrive cet après-midi entre la Normandie et le Nord-Est. D'ailleurs, 25 départements sont en vigilance orange, neige, verglas.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi. RTL. Coupe du Monde 2022.
Plus que 7h30 donc avant le coup d'envoi d'une demi-finale historique entre la France et le Maroc. Ce sera 20h ce soir, deux équipes pour une seule place dimanche face à l'Argentine de Léo Messi, déjà qualifié. Et dans les tribunes, il n'y aura pour ainsi dire qu'une goutte bleue ce soir dans un océan rouge au Qatar. Car oui, les hommes de Didier Deschamps pourraient avoir l'impression de jouer cette demi-finale du Mondial à l'extérieur face au Maroc. Un peu plus de 3000 supporters français sont attendus, Mourad Djabari. Mais ils seront presque inexistants face à la marée marocaine.
Oui, étouffés par la ferveur marocaine, les milliers de supporters rouges et verts et tous ceux des pays du Maghreb, du Moyen-Orient africain qui s'agrègent et qui ce soir, le temps d'un match, seront tous marocains. Le petit poussé de la compétition qui fait tomber les gros en tribune. Les supporters français ne pourront qu'agiter leur drapeau pour afficher leur soutien.
J'ai vu déjà l'équipe du Maroc jouer contre l'Espagne. C'était infernal pour l'Espagne parce qu'à chaque fois qu'ils touchaient un ballon, ils étaient sifflés, quoi. Et je pense que les Français vont se faire siffler à chaque fois qu'ils toucheront le ballon. À chaque fois que c'est une terre du Maghreb ou une terre arabe, de toute façon, ils les supportent. Et à chaque étape, ça s'amplifie, quoi.
La seule façon de baisser le volume, éteindre les supporters marocains en tribune, c'est de marquer très vite dans cette affiche symbolique à la saveur particulière avec un match dans le match, un duel fratricide. Deux frères, deux amis, deux Parisiens, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi.
French against Morocco, I have to destroy my friend.
I'm gonna kick him.
Les deux amis ont rêvé, fantasmé cette rencontre en stage en mars dernier à Doha avec le PSG. Avec le sourire, Mbappé dit dans cette vidéo « Je vais détruire mon ami, je dois le tuer ». Hakimi répond que lui aussi, pas de cadeau entre l'attaquant et l'arrière droit. Clément en est persuadé, les deux joueurs mettront leur amitié entre parenthèses ce soir.
Ça va être la guerre. Ça va être un bon duel. Ça va se battre pendant 90 minutes, voire plus. Ils vont se battre jusqu'au bout. Et je sais qu'à la fin du match, ce sera de nouveau des bons amis et que tout va bien se passer. Comme entre la France et le Maroc, on fera des accolades et des belles photos tous ensemble.
Une grande fête dans cette immense tente bédouine plantée au milieu de rien, au milieu du désert. Le stade Al Bayt de 70 000 places où au moins 50 000 seront occupés par des supporters marocains.
Mourad Djabari, l'un des envoyés spéciaux de RTL au Qatar.
Les supporters rouges et verts très nombreux au Qatar, mais plus largement c'est tout un pays, le Maroc, qui retient son souffle.
Et qui s'apprête même à se figer pour ne rien rater de ce moment d'histoire ce soir. Bonjour Vincent Serrano.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial d'RTL à Casablanca où tout le monde s'organise pour être devant la télé au coup d'envoi et même souvent bien avant.
Oui, défilé ce matin dans les rues blanches de Casablanca d'habitants qui partent travailler avec un maillot du Maroc sous la veste de costume ou le tailleur. Et puis des personnes comme Omar qui vont un peu plus loin avec les lunettes à l'effigie du Maroc. Ils ne voient quasiment rien. La casquette, l'écharpe et puis bien sûr le maillot. Oui, Omar, on va travailler aujourd'hui mais pas trop. Hein.
J'ai pas bien dormi. Tout le monde est prêt pour faire l'ambiance aujourd'hui. Bonne chance pour vous mais pas aujourd'hui. Hakimi va marquer aujourd'hui. Il va manger Mbappé. Il va être une ambiance de folie. Crois-moi.
Je m'approche d'un commerce, un opticien. où quasiment personne ne travaille. Qu'est-ce que vous faites, madame ?
Chaque fois que le Maroc, il joue, on est habillé avec les tenues marocaines et on met les drapeaux, c'est normal.
Mais
c'est
on travaille plus ?
Un petit peu. C'est historique et c'est l'exception. Est-ce que vous êtes confiant pour le match d'aujourd'hui ?
Ça va.
Ben, nous aussi.
Voilà, vous l'entendez, des commerçants, des habitants qui sont déjà prêts, qui sont déjà quasiment à l'arrêt au travail, puisque je ne suis pas très sûr que ce magasin vendra beaucoup d'objets cet après-midi.
Vincent Serrano à Casablanca, donc pour RTL.
La ferveur des supporters, on l'entend au Qatar, au Maroc et bien sûr ici en France.
Avec son corollaire, malheureusement, la crainte de débordement au coup de sifflet final, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin l'a annoncé hier. 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans tout le pays, 5 000 rien qu'en région parisienne, avec une vigilance accrue, Guillaume Chiez, autour des Champs-Élysées.
Oui, d'ailleurs, la maire du 8e arrondissement avait réclamé la fermeture pure et simple de l'avenue. Proposition rejetée par la préfecture. En revanche, 5 portes d'accès à Paris seront coupés à la circulation dès 22h pour éviter l'engorgement. L'idée, c'est de maintenir la foule sur les trottoirs. Pour cela, un périmètre très large de sécurité sera mis en place autour des Champs-Élysées avec des policiers visibles, d'autres en civil. Les forces de l'ordre pourront contrôler visuellement les sacs à la recherche de mortiers, de pétards, de feux d'artifice. Plus largement, des patrouilles seront présentes dans les gares et les stations de métro parisiennes. En tout, ce sont 2200 policiers et gendarmes qui seront mobilisés sur la capitale, puisqu'on le rappelle, selon une note des services de renseignement que nous avons pu consulter, les autorités s'attendent à des débordements, quel que soit le résultat du match.
Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL.
Et ce match, il en est évidemment largement question dans tous vos journaux.
Avec également cet encart que vous avez peut-être remarqué, celui de l'ONG Havas qui met en scène Emmanuel Macron, reprenant cette photo célèbre du président exultant en tribune lors du mondial en Russie, c'était il y a 4 ans, mais devant lui un terrain de football en flamme avec ce message: les bleus n'ont pas besoin de vous, la planète si. Et c'est vrai, Marie Mollet, que l'aller-retour express du président au Qatar ce soir pour aller assister au match est critiqué par une partie de l'opposition. Du côté de l'Élysée, en revanche, on assume complètement.
Oui, pas question de boycotter. Vous vous souvenez ce que le président a dit juste avant le mondial ?
Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport.
Alors disons-le, le commentaire est un peu gonflé pour un président qui adore mettre son nez dans tous les dossiers chauds du foot français. Kylian Mbappé menace de partir au Real Madrid.
Bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Ça va ?
Le président intervient et n'oublie pas de le faire savoir. Les droits télé de la Ligue 1 doivent être renégociés. Emmanuel Macron met la pression aux diffuseurs. Un président qui, depuis 5 ans, met aussi en scène sa passion dévorante du ballon rond, en short et crampons pour exhiber les passes et la foulée présidentielle.
Et vous ne rêvez pas, c'est bel et bien le président de la République que vous voyez en tenue de football aujourd'hui.
Il a posé le pied sur le ballon, il est parti dans une série de dribbles.
Et en avril 2017, le candidat Macron déclarait déjà sa flamme à son club fétiche.
Quand je dis que je soutiens l'Olympique de Marseille, on me dit pourquoi ?
Parce qu'ils m'ont fait rêver quand j'étais jeune.
La passion est véritable, mais l'intérêt politique aussi. En 2018, il voulait sa part de lumière après le triomphe des Bleus. Vu l'ambiance du moment, retraite et inflation, une troisième étoile serait un cadeau du ciel. Avant ça, il y a une demi-finale à gagner ce soir.
Bien, merci Marie Mollet.
Et bien évidemment, il retournera pour la finale si, par bonheur, la France est qualifiée, j'imagine.
RTL Midi.
La politique, c'est aussi Gérald Darmanin qui annonce vouloir porter plainte contre Adrien Quatennens.
Le ministre de l'Intérieur est en effet mis en cause par le député LFI, condamné hier à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Dans une interview à La Voix du Nord, il accuse à mots couverts le ministère de l'Intérieur d'avoir fait un coup politique avec cette affaire pour l'abattre. Adrien Quatennens, qui dans le même entretien assure qu'il ne démissionnera pas de son poste de député. Alors il est mis en retrait pour 4 mois par sa formation politique, mais son cas n'a pas fini de faire des remous au sein de la NUP. Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, effectivement, même si officiellement l'unité n'étant rien entamée et que députés et sénateurs des 4 groupes de l'Alliance ont tenu ensemble une conférence de presse ce matin pour dire leur opposition à la réforme des retraites. Mais hier soir, par exemple, les groupes de gauche se voyaient en séminaire et les écologistes voulaient parler du cas Adrien Quatennens. Mais Mathilde Panot, la chef des députés insoumis, n'est pas venue. La discussion n'a donc pas eu lieu. Alors que pendant 4 mois, le député du Nord n'est plus membre de la NUP, mais quid de l'après ? Sandrine Rousseau ne compte pas enterrer le sujet.
C'est aussi un moment un peu clé. Aujourd'hui, la lutte sociale qu'est le féminisme fait partie des luttes principales à gauche. Et on voit que tout le monde a des progrès à faire de ce point de vue-là.
Alors la question est temporairement évacuée. Ça ne va pas plomber le fonctionnement collectif, même si ça pèse sur le moral des gens, raconte un socialiste, tout en reconnaissant que le sujet se reposera sans doute au printemps.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL.
Tout à fait autre chose à présent. Deux mois après le lynchage et la mort de Jérémy Da Silva à Lescarène, dans l'arrière-pays niçois, trois hommes ont été placés en garde à vue.
Oui, le 12 octobre dernier, ce père de famille était retrouvé gisant dans une rue du village après avoir été passé à tabac, soupçonné d'être l'auteur d'un cambriolage chez une retraitée un peu plus tôt dans la soirée. Et c'est justement dans l'entourage de cette retraitée qu'ont eu lieu les interpellations, Maxime Lévy.
Exactement, et il aura fallu attendre deux mois pour que les suspects soient interpellés dans cette affaire où il n'y a, je le rappelle, toujours aucune mise en examen. Ce sont trois hommes qui ont été placés en garde à vue hier matin. Des connaissances des proches de cette retraitée qui avaient signalé un cambriolage le soir du drame, ce qui avait valu à Jérémy Da Silva d'être poursuivi, violemment frappé par les habitants du village, avant de décéder deux jours plus tard à l'hôpital. Selon le journal Le Parisien, deux de ces suspects aurait été interpellé au sein même du village de Lescarène. Le troisième, lui, aurait été arrêté à Perpignan. Ces trois hommes sont toujours entendus en ce moment par les gendarmes de la brigade de recherche de Nice. Selon les témoignages, ce soir-là, les participants à ce lynchage étaient plus que trois, atteignant parfois une dizaine de personnes, selon les versions. Des recherches sont donc toujours en cours pour retrouver d'autres potentiels suspects.
Maxime Lévy, merci. Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême annule l'exposition consacrée au dessinateur Bastien Vivet après les menaces reçues par cet auteur d'œuvres polémiques mêlant pornographie et mineurs. Et puis notez que l'épidémie de grippe progresse. Elle concerne désormais toute la France avec des conséquences directes à l'hôpital. 654 personnes hospitalisées cette semaine. C'est une hausse de plus de 117%.
RTL Midi.
Vous l'avez constaté ce matin au réveil, par endroits, des paysages de cartes postales, tout blanc, même en plaine. J'écoutais ce matin Alba Ventura. Tout le monde aime la neige.
Et peut-être aussi les habitants de l'Est, notamment à Oudemont, en Meurthe-et-Moselle, Samuel Goldschmidt, où vous les avez rencontrés ce matin. Eux, bon, c'est l'inconvénient de la neige, ils ont quand même dû commencer leur journée par déblayer.
C'est ça, un geste plus si fréquent, mais enfin cet habitant a dégagé devant chez lui. Il a prolongé d'ailleurs vers les voisins, normalement c'est une obligation, hein, mais ce matin la neige s'est mise à tomber après l'heure du départ au travail, d'où ce petit coup de pouce de ce monsieur qui est retraité et qui a le temps.
Oui, on sait rien, ça. On a connu pire. Oui, ça roule, ça y est, dégage tout de suite, c'est normal, c'est bien.
Ça y est, c'est l'hiver.
Oui, tant mieux, ça va faire du bien. Toutes les petites vacheries, tous les... Il faut qu'ils gèlent plus longtemps.
Voilà, le fameux gel pour tuer les microbes, certes, mais ça provoquait évidemment des désagréments ce matin. Petit ralentissement dans les pentes autour de Nancy, circulation difficile dans toute l'Alsace globalement. Et le gros point noir, ce sont les nationales 4 et autoroute A4, globalement de Nancy et Metz à Strasbourg. Et particulièrement quand l'autoroute traverse les Vosges à hauteur de Saverne et de Schwindratzheim, on rappelle que les camions particulièrement doivent faire attention et rouler 20 km/h moins vite que les vitesses habituelles. C'est un arrêté de la préfecture de la zone de défense Est.
Samuel Goldschmidt dans l'Est. Donc pour RTL, la neige justement.
Tombe la neige.
En musique. Et
pourquoi pas?
On en attend encore, hein, vous nous le disiez, Peggy Broche, cet après-midi.
Exactement, Céline. Je rappelle qu'il y a 25 départements en vigilance orange, neige, verglas entre la Normandie, l'Île-de-France et le Nord-Est. Alors, on a eu un premier passage neigeux ce matin. On en a un deuxième qui arrive là par la Basse-Normandie. Ça glisse vers l'Est, donc ça va toucher encore l'Île-de-France. Alors, peut-être plus le sud de l'Île-de-France et la Lorraine et l'Alsace. Alors, attention également sur la zone qui est juste plus au sud, aux pluies verglaçantes entre Le Mans, Orléans, Mulhouse. Là, on a pas mal de pluies verglaçantes et puis cette perturbation pluvieuse qui concerne cet après-midi encore la Bretagne, le Massif central jusqu'aux Alpes. Les Alpes où il faut être très vigilant au risque d'avalanche qui est assez fort. Côté température, ça reste froid au nord et c'est très doux au sud. 0 à Strasbourg, ça ne dégèle pas. 1 à Paris et Lille, 2 au Havre cet après-midi, 3 à Rennes et Tours, 5 à Dijon, 7 à Nevers, 10 à Lyon, 11 à Limoges et donc beaucoup plus doux dans le sud avec 13 degrés cet après-midi à Nice, 14 à Toulon, 15 à Perpignan, 16 à Tarbes, on a l'impression d'être au printemps et même jusqu'à 19 degrés à Biarritz avec de belles éclaircies au sud de la Garonne.
Merci beaucoup, Peggy Broche.
Vous les écoutez depuis le début de la Coupe du Monde. Philippe Sanfourche, Nicolas Georgerot, ce sont nos experts. Ils sont à Doha. On parle du match France-Maroc et on ne parle que de foot. Dans une seconde.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Il y a un sélectionneur en face de moi qui est le meilleur au monde. Et je prends exemple sur la France. Moi, 2018, ils m'ont fait rêver la France comment ils ont joué. C'est la meilleure équipe.
Walid Regragui, le sélectionneur marocain, qui clame son admiration pour Didier Deschamps. Les deux hommes et leurs joueurs seront face à face ce soir à 20h pour cette demi-finale du mondial tant attendu France-Maroc, qui sera à vivre sur RTL avec Philippe Sanfourche et Nicolas Georgerot. Bonjour messieurs, rebonjour Nicolas d'ailleurs.
Rebonjour.
Bonjour à tous. Nous, on sera pas face à face, on sera côte à côte.
C'est ça qui est beau. C'est l'esprit d'équipe chez RTL. Une question, et là, vous serez peut-être pas complètement côte à côte. Qui est favori ce soir, selon vous ?
Bah, c'est évidemment l'équipe de France, mais c'est ça qui rend justement l'équation la plus compliquée, parce que j'entends déjà. Tiens, je vais précéder l'intervention de Pascal Praud, qui va me sortir la cote du match de ce soir. Mais la cote du match ce soir, c'est à peu près la même que celle qu'il y avait avant Portugal-Maroc. J'ai regardé, la victoire du Portugal était cotée à peu près à 6,5 et la victoire du Maroc était à peine à 1,5, non, inversement. Donc ça, on est exactement dans le même schéma. Et c'est-à-dire que plus on avance dans la compétition et plus le poids d'être favori, quand il y a un déséquilibre comme ça sur le papier, plus le poids est lourd à porter, donc pour l'équipe de France, plus ça finalement annule la supériorité théorique sur le papier.
J'entends bien, mais je trouve qu'on joue beaucoup à se faire peur, mais c'est le jeu, c'est-à-dire que nos joueurs, nos footballeurs jouent dans les plus grands clubs d'Europe, c'est vrai pour le Real Madrid, c'est vrai pour Manchester United qui a Varane, Griezmann et à l'Atlético, etc. On a le sélectionneur qui connaît ça par cœur, la science, qui a aussi un peu de chance parfois. On a une expérience. On a en face de nous des gens qui jouent à Angers ou à Brest.
Non, pas vraiment. Il y a des joueurs qui sont aussi au Bayern de Munich, qui sont au FC Séville. Et puis, ce que vous dites là, c'est un peu ce que se disaient l'Espagne et le Portugal au tour précédent, avec des effectifs où il y avait aussi plusieurs joueurs qui étaient au Barça.
Ils n'ont pas Deschamps. Deschamps, c'est autre chose que le sélectionneur espagnol et le sélectionneur portugais. Deschamps, c'est la science. Deschamps, ça gagne.
Mais ce rôle de favori, il va très bien pour les Marocains. Côté marocain, il va très bien à l'équipe de France. Hein. Ils sont pas du tout en train de revendiquer quoi que ce soit. Ce qui les arrange, ce serait de piéger l'équipe de France un peu comme sur le même schéma qui s'est passé sur les tours précédents. C'est une équipe qui est capable de subir, de marquer des buts, qui sera un peu, si on veut schématiser un peu, l'équipe de France, elle doit s'attendre un petit peu à ce qui s'est passé avec la Pologne. Mais avec une différence, c'est que la Pologne a beaucoup moins d'arguments offensifs que le Maroc, et donc cette équipe marocaine, elle est très largement capable de tenir un résultat. Donc c'est une rencontre piège pour les Bleus, faut pas l'occulter.
On a beaucoup parlé de la force de la France avec son attaque et notamment Kylian Mbappé, mais face à lui aujourd'hui, il y a une défense quasiment infranchissable depuis le début de ce mondial, Nicolas.
Bah oui, les Marocains n'ont encaissé qu'un but, et encore c'était un but contre leur camp, un but face au Canada, et même que depuis que Regragui est en poste fin août, ils n'ont jamais été menés au score. Alors évidemment, au fil des tours, tout le monde dit ils vont bien être rattrapés par la fatigue, ils n'ont pas l'habitude de ces rendez-vous, parce que depuis 2004 le Maroc n'a jamais joué une demi-finale d'une quelconque compétition,
et c'est vrai, l'expérience acquise par l'équipe de France des demi-finales.
Alors ça, c'est un élément important. Bah oui, ça c'est vrai. En revanche, sur l'intensité, sur le rythme,
de ces matchs-là,
c'est différent. En revanche, sur l'intensité et sur le rythme, moi je m'attends pas du tout à ce qu'il y ait une baisse d'intensité de ce côté-là des Marocains ce soir face à l'équipe de France. Sur l'expérience, oui, effectivement, quand vous avez une équipe de France qui joue sa quatrième demi-finale sur les sept dernières Coupes du Monde, il y a quand même des éléments qui permettent de dire que, à la fois avec Deschamps et avec le vécu, vous avez un savoir-faire, une façon d'aborder ces rendez-vous, une gestion émotionnelle que vous pouvez maîtriser. Et donc ça, c'est un élément qui plaide en faveur de l'équipe de France. Ça, c'est vrai.
On vous sent quand même prudent tous les deux. Hein.
Bah, il y a nécessité d'être prudent.
Vous en avez vu combien ils ont pris la porte.
Non, il y a beaucoup de facteurs en fait qui nous échappent. On parle de cette expérience de jouer des demi-finales, mais vraiment ce rapport de force aussi déséquilibré sur le papier, ils ne l'ont jamais connu ça. Et donc c'est vraiment une pression supplémentaire. Après, là où j'ai tendance quand même à me dire que le Maroc, ça va pas durer éternellement non plus, c'est quand on fait l'analogie par exemple avec le match d'hier, où on a vu ces Croates qui avaient été merveilleux d'abnégation, d'organisation pendant toute la Coupe du Monde, et avec un paroxysme face au Brésil. Il y a un moment, quand tu ne fais que défendre, c'est mathématique, quand tu ne fais que défendre, quand tu es toujours dans les 15 derniers mètres avant ton but, s'il se passe que, si le jour où la chance n'est pas avec toi, eh bien, ça peut se retourner et très vite. Hier, la Croatie a très vite été menée et après, ça devient compliqué. Si le Maroc est mené, en gros, là, je parie. Là,
je mets 95. N'oubliez pas que l'équipe de France a concédé deux pénalties quand même en quart de finale face à l'Angleterre.
On l'a pas oublié. Merci beaucoup. Messieurs, merci. On rappelle le coup d'envoi, c'est 20h, la soirée spéciale dès 18h sur RTL pour ne rien rater de l'avant-match.
Alors, il y en a un qui n'est peut-être pas très content d'avoir France-Maroc ce soir parce que ça va faire 20 millions de téléspectateurs. C'est notre ami Stéphane Boutsock, grand spécialiste de cinéma.
Les gens iront au cinéma demain. Mais c'est pas grave du tout.
Bon, alors, c'est pas grave. Rien n'est grave sauf la mort, disait Sacha Guitry. Il est 12h52, à tout de suite.
RTL Midi, Céline Landreau et Pascal. RTL. Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, on parle cinéma avec Stéphane.
Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour tout le monde.
Ça y est, il est sorti. On parle évidemment d'Avatar 2 de James Cameron. Vous nous en aviez parlé, vous l'aviez adoré.
Mais en fait, c'est assez rare dans l'histoire du cinéma qu'on attende un film pendant plus d'une décennie. Il y a le cas Star Wars, évidemment. On a attendu très longtemps avant la deuxième trilogie. Mais là, oui, c'est l'aboutissement enfin de cette très longue attente. Et franchement, ça valait le coup. Parce que oui, encore une fois, le film est sublime. Il est surprenant, il est poétique, il est stupéfiant au niveau de la technique. Ça raconte plein de choses sur l'environnement. C'est un des plus beaux films vraiment de cette année et on va suivre avec attention le box-office en rappelant que il y a 13 ans, Avatar 1 donc, avait pas démarré de folie. Après, on est arrivé à 15 350 000 entrées en France et puis le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Mais à la base, ça avait été un diesel. Un peu.
Si on n'a pas vu Avatar 1, on peut comprendre Avatar 2 ?
Oui, parce qu'il y a évidemment une suite puisqu'on retrouve le héros qui était là dans le premier. Mais oui, franchement, vous ne serez pas totalement déboussolé.
Le film est donc en salle depuis ce matin. Antoine Cavallero, vous êtes allé pour RTL à la sortie de la séance au Grand Rex à Paris. Qu'en disent les premiers spectateurs ? Conquis ou pas ?
Eh bien écoutez, je suis avec 4 étudiants en architecture, tous 20 ans. Manon, Noé, Clara, Esther. Comment on se sent après donc 3 heures de voyage sur Pandora ?
Assez ému finalement parce que ça fait longtemps qu'on attend ce film pour la plupart.
13 ans.
Et, ouais c'est ça, 13 ans. Donc c'était un beau spectacle. On n'a pas vu le temps passer et on se plonge très rapidement dedans et c'est. Quand on ressort, c'est compliqué de sortir la tête de l'eau finalement.
Bah oui parce que. Excellent. Noé, vous aviez carrément les larmes aux yeux, alors c'était peut-être un petit peu le froid, mais vous avez été bluffé par les effets spéciaux.
Ah ouais, c'était assez impressionnant. Je m'attendais à rien justement pour pas être trop déçu et c'est extrêmement extrêmement émouvant alors que je suis pas spécialement ému au cinéma volontairement mais là c'était vraiment très très touchant la relation de famille très intéressant.
Oui Clara c'est l'histoire, le scénario ça vous a convaincu ?
Oui ça m'a convaincu, c'était un très beau film. On s'est beaucoup attaché à tous les personnages, même les nouveaux qu'on a découverts ce matin.
Esther, la 3D, c'était comment ? C'était bluffant ?
Oui, c'était assez impressionnant de se plonger dedans sans que ça nous défonce les yeux. Et avec tous les effets spéciaux et tous les détails de la nature, c'était assez incroyable.
La nature marine ?
Exactement.
Et voilà, une plongée sous l'eau de Pandora qui aura convaincu 200 personnes ce matin à la séance de 9h sur 1200 places. Donc comme le disait Stéphane, c'est pas un départ canon, mais au Grand Rex, on me dit que les séances de ce soir sont quasiment complètes. Donc voilà, face à la concurrence du foot, les fans d'Avatar seront quand même là.
Et on rappelle, Antoine le disait, on peut voir le film évidemment en 3D, donc avec des lunettes, mais il y a aussi plein de séances et plein de salles qui vont le jouer en 2D classique sans les lunettes. Voilà, on peut le voir sous tous les formats.
En tout cas, on entend effectivement qu'ils avaient l'air assez émus emballés. Et emballés ces premiers spectateurs. On a beaucoup parlé donc d'Avatar 2. Il y avait d'autres sorties cette semaine.
Les vacances de Noël arrivent.
Ça ne va pas être facile, forcément.
Non, c'est pas une des plus grosses semaines de l'année en termes de nombre de sorties, mais pour les petits, pour les familles, puisqu'on arrive aux vacances de Noël, il y a un très 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 joli dessin animé traditionnel, c'est-à-dire c'est du vrai dessin. Ça s'appelle Ernest et Célestine, le voyage en charabie. Ernest et Célestine, à la base, sont des livres jeunesse qui sont fabriqués par une Belge qui s'appelle Gabrielle Vincent qui ont déjà été adaptés au cinéma il y a pile 10 ans, ça avait fait 1 300 000 entrées. C'est l'histoire d'une souris et d'un ours qui sont amis, qui vivent ensemble. Et dans ce deuxième film, ils vont devoir partir en Charabie, qui est le pays d'origine du chat, donc de Ernest, où la musique, figurez-vous, est interdite. Donc ça rappelle plein de choses qu'on voit dans certains pays, malheureusement, et dans l'actualité. Et celui qui fait la voix une nouvelle fois, c'est Lambert Wilson, qui fait ça très très bien. Il avait déjà fait Balou pour les spécialistes dans Le Livre de la Jungle. Et j'ai demandé à Lambert Wilson de nous dire comment il avait trouvé cette voix d'Ernest.
Quand on fait les premiers enregistrements des dessins animés à la création, pas un doublage d'un film américain qui arrive tout fini, vous avez des images, mais à peine crayonnées sur l'écran, il n'y a presque rien, mais c'est un truc d'osmose, on se laisse impressionner la rétine, on se dit tiens, il a quelle voix celui-là, il a l'air de râler, il a des grognements, il y a des sons qu'on s'amuse à découvrir, hein, on les crée, on se surprend soi-même. Il se trouve que quand je suis devant un micro, mais sans mon visage à l'écran, je perds totalement mes inhibitions. Vous pouvez me demander, mais n'importe quel son, je trouve ça super rigolo. C'est très jubilatoire, mais jubilatoire comme les enfants peuvent jubiler en se déguisant ou en disant, on dirait que je suis un ours, on dirait que je suis une souris. C'est un peu un truc médiumnique, hein, mais bon, j'allume pas des bougies pour trouver mon personnage, hein, mais je pense que c'est ça, je pense que ça sort tout seul.
Lambert Wilson, donc la voix de l'ours Ernest dans Ernest et Célestine, le voyage en Charabie, qui sort aussi aujourd'hui au cinéma.
Merci beaucoup Stéphane Boutsock. Deux films donc à aller voir en famille, éventuellement pendant les vacances de Noël qui débutent, on le rappelle, vendredi soir.
Rendez-vous avec les auditeurs dans une seconde. On va évidemment beaucoup parler de France-Portugal et Jean-Michel Rascol sera là. Est-ce qu'on ne joue pas à se faire peur avec le match
France-Maroc.
J'ai dit quoi ?
Portugal,
mais... Ça, c'est... Voyez, j'ai l'impression...
J'ai des troubles de l'attention.
Un petit lapsus révélateur. L'âge. Vous auriez peut-être préféré une victoire.
Je pense qu'il faut que vous restiez.
À plusieurs ?
Oui.
Ouais. Bien sûr.
Merci beaucoup, Stéphane Boutsock. À tout de suite.
RTL Midi.